Il est 8h sur Radio G.
Je venais à partir de 8h10 TU.
RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est 8h à Paris, 6h en temps universel.
Grégory Lesca.
Bonjour à toutes et à tous. Journée sous haute tension aujourd'hui en Irak. Le gouvernement a décrété le couvre-feu dans trois grandes villes, dont Bagdad, après deux jours de vives contestations violemment réprimées. Mais les appels à manifester sont maintenus pour aujourd'hui. Que s'est-il passé à Boulkessi en début de semaine? C'est dans cette localité malienne, près de la frontière avec le Burkina Faso, que les djihadistes ont tenté de prendre le contrôle d'une base militaire. Les affrontements ont fait 25 morts, au moins parmi les militaires, et l'on ne connaît toujours pas avec certitude les auteurs de l'attaque. Donald Trump, hier lors d'une conférence de presse avec son homologue finlandais, le président américain, visé par une procédure de destitution, s'en est pris aux médias, aux démocrates et aux lanceurs d'alerte de manière très virulente et sans aucun filtre. Boris Johnson ne convainc pas les Européens. Hier, le Premier ministre britannique a présenté son offre, la dernière selon lui, en vue de sortir de l'Union Européenne avec un accord. Mais ses propositions sur la frontière irlandaise posent encore des problèmes. Nous serons en direct de Londres. Et puis en France, la mise en place d'une cellule psychologique à Rouen, une semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol. C'est une colère qui gronde depuis des mois en Irak, un ras-le-bol de la population contre l'incapacité de la classe politique, les services publics défaillants ou encore la corruption généralisée. Depuis deux jours, cette colère s'exprime au grand jour dans les grandes villes, à Bagdad, la capitale, mais aussi Najaf ou encore Nasiriya. Des manifestations violemment réprimées, parfois à balles réelles. Au moins 8 manifestants ont été tués, un policier également. Hier, le gouvernement a décrété un couvre-feu dans ces grandes villes, jusqu'à nouvel ordre, preuve de la tension croissante. Reportage à Bagdad, Lucille Wasserman.
Cris de colère dans les rues de Bagdad. Par centaines, des manifestants battent le pavé pour la deuxième journée consécutive. Fait inédit en Irak, aucun parti politique et aucun chef religieux n'est à l'origine de ce mouvement social que les manifestants décrivent comme purement populaire.
Ces manifestations sont spontanées. Il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des gens éduqués, et on demande juste nos droits. Ici, il n'y a pas d'emploi et les secteurs de l'éducation et de la santé sont déplorables.
Ces manifestations sont largement réprimées par les forces de l'ordre qui, régulièrement, tirent à balles réelles pour disperser les manifestants. Sous couvert d'anonymat, un membre des forces de sécurité critique la gestion de ces manifestations.
Le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement devraient tous démissionner car ils ont laissé les forces armées et l'armée frapper la population. Cette classe politique corrompue a dressé le peuple les uns contre les autres.
Un peu plus loin, des forces de l'ordre demandent à voir le téléphone de certains manifestants. Ceux qui refusent se font immédiatement arrêter, la plupart sans protester. Le gouvernement a qualifié ces manifestants de saboteurs, cherchant à propager la violence.
Un reportage de Lucille Wasserman. Et aujourd'hui, de nouvelles manifestations sont prévues. En dépit du couvre-feu, le leader chiite Moqtada Sadr a appelé ses nombreux partisans à participer au sit-in pacifiste. Le Mali est en deuil, un deuil national de trois jours après les deux attaques menées en début de semaine contre des bases militaires. La première à Mondoro a fait deux victimes civiles, selon le ministère de la Défense. La deuxième à Boulkessi, contre le bataillon malien de la force conjointe G5 Sahel, a provoqué de lourdes pertes. 25 soldats tués, une cinquantaine de militaires portés disparus ainsi que du matériel emporté ou incendié, toujours selon le ministère de la Défense. Alors qui a pu mettre ainsi en difficulté l'armée malienne et pourquoi Boulkessi, un village près de la frontière avec le Burkina Faso, qui a connu de nombreux assauts ces dernières années? Élément de réponse avec Coralie Pierret.
Très rapidement, quelques heures seulement après l'attaque, la force conjointe G5 Sahel accuse Ansarul Islam. C'est ce groupe terroriste burkinabé qui, selon un communiqué, aurait attaqué les camps militaires maliens de Mondoro et de Boulkessi. À Boulkessi, précisément, localité située à la frontière avec le Burkina Faso, c'est loin d'être la première attaque djihadiste. Le 15 mars, le chef de ce village était enlevé par des hommes venus du pays voisin, selon le gouverneur de la région en poste au moment de ce rapt. C'est la zone de Jafar Diko, le chef d'Ansarul Islam. Il y prêche régulièrement. indique un ressortissant de Boulkessi. Toujours dans ce village, dès mars 2017, au moment de sa création, le GSIM, une coalition de groupes djihadistes, y revendiquait ses deux premières attaques contre les Fama. Plus largement, dans cette zone frontalière, on compte également l'État islamique au Grand Sahara. Selon une note des renseignements burkinabés, le IJS, branche d'Abdoul Hakim, a planifié et exécuté l'attaque le 19 août dernier à Koutougou, où 24 soldats burkinabés avaient perdu la vie. Toujours selon cette note, après l'assaut, les assaillants s'étaient dispersés, certains jusqu'à Boulkessi.
Et les forces françaises Barkhane ont déployé une patrouille d'avions et d'hélicoptères lundi et mardi à Boulkessi jusqu'au rétablissement du dispositif malien, selon l'armée française. C'est une véritable guerre des nerfs qui se joue à Washington. D'un côté, les démocrates qui ont lancé il y a 10 jours une procédure de destitution à l'encontre du président américain. Hier, le chef de la commission du renseignement, Adam Schiff, a menacé de recourir à la justice si la Maison-Blanche ne fournissait pas en temps voulu les documents que les démocrates réclament. De l'autre, Donald Trump qui crie au coup d'État et qui a complètement perdu ses nerfs hier. Anne Corpet, vous êtes notre correspondante à Washington. La scène est inédite. Le président américain recevait son homologue finlandais à la Maison-Blanche et au moment de répondre à la presse, Donald Trump s'en est violemment pris aux médias, aux démocrates et aux lanceurs d'alerte.
Oui, pendant 17 minutes, dans le bureau ovale, aux côtés d'un président finlandais qui roulait des yeux ronds, Donald Trump s'est livré à une furieuse diatribe. Il a accusé Adam Schiff, le président de la commission chargée de l'enquête sur la destitution, d'être un traître. Il ne l'appelle plus que Shifty Schiff, Schiff le sournois. Le président a estimé que le lanceur d'alerte avait relaté des faits viciés et que ceux qu'il avait informés étaient des espions. Il a achevé sa performance en vitupérant contre la presse, les médias qu'il juge corrompus et qu'il a une fois de plus qualifié d'ennemis du peuple. Et comme si cela ne suffisait pas, le président américain a répété ses doléances un peu plus tard lors d'une conférence de presse commune avec le président finlandais. Il a cette fois insulté son rival Joe Biden, qu'il a qualifié d'escroc au sang-froid, et a estimé que Nancy Pelosi, la chef de la majorité démocrate à la Chambre, distribuait les assignations comme s'il s'agissait de petits gâteaux.
Et oui, car pendant ce temps-là, les démocrates continuent leur travail d'enquête.
Oui, et ils n'entendent pas se laisser impressionner par les rebuffades de l'hôte de la Maison-Blanche ou de son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui a annoncé que les employés du département d'État ne se rendraient pas aux convocations prévues cette semaine. Et le président de la commission du renseignement n'a pas apprécié Adam Schiff.
Toute tentative de la part du secrétaire d'État, du président ou de quiconque d'interférer avec la capacité du Congrès de convoquer des témoins sera considérée comme une preuve d'obstruction aux compétences légales du Congrès.
La Chambre des représentants a donné jusqu'à vendredi à la Maison-Blanche et au département d'État pour qu'ils livrent les documents exigés.
Merci Anne Corpet à Washington. C'était son offre de la dernière chance, mais visiblement Boris Johnson n'a pas convaincu les Européens avec son projet d'accord pour le Brexit. Le négociateur Michel Barnier, tout comme les eurodéputés en charge du dossier, ont poliment salué la proposition du Premier ministre britannique, mais ils se disent sceptiques et il reste selon eux plusieurs points problématiques. Le principal, c'est le casse-tête de la frontière irlandaise. Boris Johnson veut maintenir l'Irlande du Nord dans le marché unique européen tout en assouplissant les règles et en limitant les contrôles avec l'Irlande du Sud, mais cela créerait deux réglementations différentes au Royaume-Uni et Bruxelles n'est pas favorable. Muriel Delcroix, vous êtes en direct de Londres. Au Royaume-Uni aussi, ce compromis du Premier ministre divise et la presse est partagée sur la possibilité d'un accord avec Bruxelles.
Oui, et quand le tabloïd Daily Express évoque carrément une avancée pour Boris Johnson et annonce que l'Union européenne a qualifié son plan de positif, c'est exactement l'inverse dans The Independent, pour qui Bruxelles est prête à rejeter le plan du Premier ministre, avec le sentiment que Downing Street essaie de leur faire porter la responsabilité d'une sortie brutale sans accord. Même analyse dans Le Guardian, pour qui le dirigeant conservateur semble mener un combat perdu d'avance, après les remarques cinglantes en privé du négociateur Michel Barnier, qui aurait décrit son plan comme un piège. En contraste, la réaction des différents protagonistes à Londres est plus claire. Si selon le Times, le plan de Boris Johnson ne tient qu'à un fil après le refus des Européens d'entamer formellement pour le moment des négociations, à Westminster, le soutien apporté par les unionistes irlandais du DUP et par les ultra-brexiteurs aux propositions du Premier ministre signifie qu'il pourrait obtenir l'approbation du Parlement britannique en cas d'accord avec Bruxelles.
Et Muriel, à quoi faut-il s'attendre dans les heures qui viennent ?
Eh bien, dans la matinée, Boris Johnson réunit son équipe gouvernementale à Downing Street pour mettre au point une stratégie destinée à ne pas relâcher la pression sur Bruxelles. Puis un peu plus tard dans la journée, un ministre viendra devant la Chambre des communes. Tenter d'avoir suffisamment de députés de son côté sera crucial pour le cabinet Johnson, parce que si le bloc européen approuve finalement ce plan, il sera essentiel de le faire passer à Westminster. Et si Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes, l'a d'ores et déjà dénigré, en revanche, parmi les trois groupes dont le soutien est essentiel, le DUP nord-irlandais semble donc déjà disposé à le suivre. Les Brexiteurs convaincus sont plus prudents et sont déjà en train de négocier avec Downing Street. Les moins faciles à convaincre seront les députés travaillistes pro-Brexit qui vont probablement attendre le dernier moment pour se décider.
Merci Muriel Delcroix en direct de Londres. Elle non plus n'a pas convaincu les eurodéputés. Hier à Bruxelles, Sylvie Goulard, candidate au poste de commissaire au marché intérieur, à l'industrie et à la défense dans la prochaine Commission européenne, était auditionnée par le Parlement, mais elle est impliquée dans plusieurs affaires et ses explications ont laissé les députés sur leur faim. Retour sur cette audition ratée avec Johanna Hochstein à Bruxelles.
Vous êtes une vraie vedette, lance une eurodéputée tchèque à la candidate française. Deux emplois à temps plein pour une seule personne, il fallait le faire, ironise-t-elle. Une allusion directe au travail de consultant pour un think tank américain que faisait Sylvie Goulard quand elle était eurodéputée et pour lequel elle a été rémunérée 10 000 euros par mois. Je suis clean et c'était une activité légale, rétorque la commissaire désignée, sans convaincre. Les critiques pleuvent aussi au sujet de l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants des eurodéputés du Modem, François-Xavier Bellamy, chef de la délégation Les Républicains.
Ministre de la Défense en France, vous avez choisi de démissionner pour une enquête judiciaire concernant votre mandat au Parlement européen. Et l'enquête judiciaire est toujours en cours. Comment comprendre que ce qui vous a écarté du gouvernement en France ne vous empêche pas d'exercer, avec la sérénité et l'indépendance requises, des fonctions de commissaire ?
Là encore, les réponses ne convainquent guère. Les parlementaires ont donc demandé des précisions à la française. Andreas Schwab, coordinateur de la commission Marché intérieur.
Cette procédure commence avec des questions écrites et si sur base des questions écrites, les collègues ne sont pas satisfaites, il y aura une deuxième audition.
Des nouvelles demandes qui risquent de retarder l'investiture de la Commission par le Parlement, prévue initialement pour le 23 octobre. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.
Il est 8h12 à Rouen. C'était il y a tout juste une semaine. Un incendie ravageait l'usine Lubrizol, un site classé dangereux et les conséquences sur la santé et l'environnement sont encore très incertaines. De quoi alimenter les inquiétudes des habitants. Hier, une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner ces habitants qui le souhaitent. Reportage Pierre-Olivier.
C'est à 800 mètres des cendres de l'usine Lubrizol que cette cellule psychologique a été installée dans des locaux municipaux. Six jours après l'incendie, ce lieu d'écoute a surtout vocation à apaiser les habitants encore inquiets. Christian Navarre, directeur de la cellule d'urgence médico-psychologique de Seine-Maritime.
On n'est pas là dans la, prise en charge médicale, ni dans la psychothérapie. On est dans l'échange pour que les gens échangent entre eux. Et c'est ça qui donne ce qu'on appellera un effet positif sur la résilience. La société actuelle est extrêmement émotive, on le voit bien sur le plan collectif, et la raison passe parfois en second par rapport à l'émotion, d'où l'importance ici d'apprendre aux gens à gérer leur stress pour aller vers le mieux.
Et justement, un café à la main, Émilie, enseignante à Rouen, sort de cette cellule d'écoute.
Ils sont là pour vous écouter comme une séance de psy, j'imagine, et voilà, c'est tout. Le temps fera son œuvre, je pense. J'ai évacué, je pense que voilà, le temps fera son œuvre et j'ai évacué, c'est tout.
Une cellule créée à la demande de plusieurs élus locaux et qui restera ouverte jusqu'à samedi soir. Tous ceux qui le souhaitent sont attendus et bienvenus. Pierre-Olivier, Rouen, RFI.
Emmanuel Macron sera à Rodez aujourd'hui. Un grand débat sur les retraites, un débat planifié la semaine dernière mais qui avait été décalé en raison de la mort de Jacques Chirac. 3 heures de discussion avec des membres, des habitants et des lecteurs de la Dépêche du Midi qui organisent le débat sont prévus. On termine ce journal avec un coup de tonnerre dans le monde de l'opéra. Le célèbre ténor Placido Domingo démissionne de son poste de directeur général de l'opéra de Los Angeles. L'Espagnol, âgé de 78 ans, est accusé de harcèlement sexuel, ce qu'il dénonce en bloc et il se dit décidé à prouver son innocence. À San Francisco, Éric de Salve.
La semaine dernière, la star du chant lyrique, aux demi-siècles d'une carrière mondiale, renonçait à se produire à New York. Cette fois, il annule la totalité de ses concerts aux États-Unis. Certains opéras comme ceux de San Francisco, Philadelphie et Dallas avaient déjà pris les devants en supprimant ses apparitions dès les premières accusations. Mais l'affaire Domingo divise le monde de l'opéra en Europe. Aucune de ses représentations n'avait été annulée. Récemment, au Festival de Salzbourg, en Autriche, l'Autriche, Placido Domingo avait même reçu une longue ovation de soutien. Dans le sillage du mouvement MeToo, ses ennuis ont commencé au mois d'août avec la publication d'une vaste enquête de l'agence AP dans laquelle 9 femmes l'accusent de harcèlement sexuel durant plusieurs décennies. Ces femmes, dont plusieurs chanteuses, évoquent des gestes déplacés, des appels téléphoniques insistants. L'une d'elles assure avoir cédé à un rapport sexuel de peur de ruiner sa carrière. Une autre raconte avoir été sanctionnée